un podcast France Culture.
Cette semaine, nous marchons dans les pas des penseurs du XVIIe, grand siècle économique. Après Montchrétien et les mercantilistes, avant La Bruyère et sa satire des bourgeois, nous nous intéressons aux réflexions économiques de Blaise Pascal. L'auteur des Pensées a-t-il annoncé la main invisible d'Adam Smith ? L'amour-propre, défini par Pascal, est-il semblable à l'égoïsme du boucher de Smith, dont, écrivait-il, dépendait son dîner ? Faut-il voir en Pascal un précurseur de l'utilitarisme ? À l'aise Blaise Pascal avec l'économie et pour en parler, nous accueillons Anne-Laure Cellier, professeure en sciences comportementales à HEC Paris, autrice d'un article à paraître sur Blaise Pascal, entrepreneur. Également avec nous à distance, Laurent Thirouin, professeur émérite de littérature française du XVIIe siècle à l'Université Lumière Lyon 2, auteur de cet ouvrage « Pascal ou le défaut de la méthode, lecture des pensées selon leur ordre » paru aux éditions Honoré Champion l'an dernier. Une émission préparée par Léa Sabourin, Diane Devancé, Anouk Milliot, Laurence Genepin, Léopold Thiévan et Inès Gender. Bonjour Laurent Thirouin et Anne-Laure Cellier.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors hier, nous avons évoqué le rôle précurseur d'Antoine de Montchrétien dans les politiques économiques visant à accroître la richesse des nations. Montchrétien est mort en 1621 dans le Calvados et 2 ans plus tard, à Clermont, en Auvergne, naissait celui qui deviendra l'un des plus grands penseurs du XVIIe siècle, Blaise Pascal. Pascal, philosophe, mais aussi économiste, même si le mot n'existe pas encore, Laurent Thirouin.
Oui, ça peut surprendre, surtout quand on sait tout ce que Pascal a fait à côté de cela, de la physique, de la géométrie. Mais je crois qu'on est fondé, oui, à le considérer comme un économiste, au moins pour 2 raisons, quitte à en trouver davantage après. D'abord, parce que, comme vous l'avez dit dans votre introduction, c'est un penseur de l'amour-propre, hein, au sens du XVIIe, c'est-à-dire de l'intérêt. Et c'est un penseur subtil de l'intérêt, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas d'une condamnation de l'intérêt, comme on pouvait être invité à le faire dans des cadres chrétiens, mais il regarde comment l'intérêt est un ferment de société. Donc ça, c'est assez surprenant. Et puis il y a une deuxième raison qui est différente, mais qui, à mon avis, est très importante, c'est que c'est un penseur de l'incertitude, fondateur des probabilités, de la géométrie du hasard, et qu'il a réfléchi sur la nécessité de travailler pour l'incertain, d'introduire l'aléa dans les activités des hommes, ce qui est une question directement économique.
Donc il y a un Pascal économiste qui s'intéresse à la richesse des peuples, à leur bien-être, à la responsabilité de ceux qui créent justement ces richesses. Mais il y a aussi un Pascal entrepreneur, Anne-Laure Cellier.
À mon sens, absolument. Je ne peux affirmer qu'une chose sur Blaise Pascal, c'est celle qu'il n'aurait pas pu ne pas entreprendre. À mon sens, Blaise Pascal avait une pulsion d'entrepreneur, que lui-même qui a écrit que tout le malheur des hommes vient du fait qu'ils ne peuvent rester en repos dans une chambre, il en était victime de cette phrase. Il ne pouvait pas rester en repos dans une chambre. Il a entrepris à 1 an de sa mort, à un moment où il est alité, l'essentiel du temps, et il va passer la majeure partie de son temps à entreprendre, lui qui n'a pas fini les pensées, lui qui n'a pas terminé son traité sur le vide, lui qui a une 19e lettre des provinciales inachevée. Donc cet homme qui n'en finit presque avec rien va aller au bout de l'aventure entrepreneuriale à un moment tout à fait atypique si on regarde l'activité entrepreneuriale typique.
Alors comment Blaise Pascal est-il devenu cet inventeur génial et ce penseur de l'économie ? Il vient d'une famille proche de la noblesse de robe. Qu'est-ce qu'on peut dire de sa famille, des sources de revenus de son père, Anne-Laure Cellier ?
Alors, des sources de revenus de son père, il travaillait pour le roi, il a travaillé aux impôts, il a à un moment donné été un petit peu pris en grippe, puis retrouvé quelques années plus tard. C'est une famille qui vit aisément. Ce que je trouve le plus saisissant dans la famille Pascal, c'est une famille extrêmement aimante. C'est toujours ce qui m'a beaucoup touchés de cette famille. Il semble qu'on a affaire à une famille hors du commun, avec un père, une figure paternelle de Étienne Pascal, qui est veuf, qui ne se remarie pas et qui décide d'éduquer ses enfants. Et je pense que l'éducation de la fratrie Pascal dans son ensemble est exceptionnelle. Et effectivement, Blaise est celui dont on se souvient le plus, mais n'oublions ni Jacqueline ni Gilberte, qui étaient des femmes extraordinaires pour leur temps.
Laurent Thirouin.
Oui, alors il y a quand même eu deux temps dans la vie de Pascal, qui peuvent de la famille, deux temps financiers qui ont pu nourrir des débats. C'est que dans un premier temps, c'est en effet des bourgeois d'office, des bourgeois de robe. Le père était président de la Cour des aides, mais il a vendu sa charge, il l'a investi, il est devenu rentier. Et ensuite seulement, par tout un concours de circonstances, il a été amené à se mettre directement au service du roi quand Richelieu l'a appelé à participer à la réorganisation de la Normandie après la révolte des Nu-Pieds. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour certains penseurs, qu'aujourd'hui on ne considère plus comme des références, mais je pense à Lucien Goldman, il considérait que la famille de Pascal était prise dans une contradiction interne, à savoir... Un besoin de s'ancrer dans la légitimité du pouvoir monarchique et en même temps une frustration parce que les bourgeois d'office, les offices perdaient de la valeur, pensait Goldman, ce qui n'était pas vrai, et que les offices étaient maltraités par le pouvoir central qui craignait ce contre-pouvoir. Donc voilà, la famille a été dans deux situations très différentes du point de vue financier et du point de vue politique.
Il y a quelque chose de fascinant dans le christianisme et qu'il est impossible de ne pas reconnaître, c'est sa contradiction.
Oh, tu sais, je suis très imperméable à la dialectique.
C'est ce qui fait la force des types comme Pascal, t'as quand même lu Pascal.
Oui, l'homme est un roseau pensant, les deux infinis, je sais pas, enfin...
Le nez de Cléopâtre.
Ce n'est certainement pas un de mes auteurs.
Bon, je serais seul contre deux.
Pourquoi vous n'avez pas lu Pascal? Tu vois?
Lucie, il est Pascal, parce que Pascal est sa mauvaise conscience, parce que Pascal le vise, lui! Faux chrétien!
C'est vrai?
Non, je disais que je n'aimais pas Pascal parce que Pascal a une conception du christianisme très particulière, qui d'ailleurs a été condamnée par l'Église.
Pascal n'a pas été condamné, en tout cas pas les pensées.
Mais le jansénisme, si. Non, je m'exprime mal. Prenons un exemple. Par exemple, en ce moment, nous mangeons, et nous, en parlant, nous oublions ce que nous mangeons. Nous oublions cet excellent chanturgue. C'est la première fois que j'en bois.
On ne le boit que dans les vieilles familles clermontoises.
Enfin, si on veut.
Pascal, sans doute, en avait bu, puisqu'il était clermontois. Ce que je lui reproche, ce n'est pas de s'en être privé. Non, c'est lorsqu'il en buvait de ne pas y faire attention. Comme il était malade, il devait suivre un régime et ne devait prendre que de bonnes choses. Mais il ne se souvenait jamais de ce qu'il avait mangé.
Oui, c'est sa sœur Gilberte qui raconte ça. Jamais il n'a dit « voilà qui est bon ».
Eh bien, moi, je dis « voilà qui est bon ».
Bravo!
Un extrait de Manuit chez Maud d'Éric Romer avec Jean-Louis Trintignant, Françoise Fabian et Antoine Vitesse. Pascal a d'abord été présenté comme un penseur tourné exclusivement vers Dieu, éloigné des plaisirs. C'est une thèse qui a depuis été nuancée par les historiens et les pascaliens, Laurent Thirouin.
Oui, nuancée et même fondamentalement contredite. Il y a une sorte de Pascal romantique, parce que Pascal est d'abord un écrivain génial. Et tout ce qu'il écrit nous fascine. Même des textes très techniques ou mathématiques ont une patte inouïe. Et donc, quand Pascal essaye d'être terrifiant, il est terrifiant. Il arrive à l'être d'une manière grandiose. Et donc, cet effrayant génie que se plaisait à présenter Chateaubriand a beaucoup séduit. Alors que ce qui intéresse Pascal, c'est toujours de contredire les réflexes. Il a un esprit de contradiction extraordinaire. Et donc, il ne veut pas peindre un homme faible, malheureux, misérable. Il veut peindre un homme contradictoire. Un homme qui n'est ni grand ni misérable, mais à la fois grand et misérable. Donc, dans son œuvre, il y a autant d'éléments qu'on peut tirer pour montrer la misère de l'homme que d'éléments pour montrer la grandeur. Alors, grandeur de l'homme avec Dieu, mais aussi une certaine forme de grandeur de l'homme en l'absence même de Dieu.
Mais en tant qu'homme, Blaise Pascal, c'est quelqu'un qui est tourné vers la société de son époque, qui a sa place dans la cité,
voilà.
Laurent Thirouin.
Voilà, ça c'est vraiment très important, et c'est pour ça que je suis vraiment ravi que vous consacriez une émission économique à cette personnalité de Pascal, parce qu'on l'imagine très volontiers enfermé dans sa chambre, priant dans une chapelle de Port-Royal, jeûnant et s'abstenant bien sûr de tout chanturgue, comme on vient de l'entendre. Mais en fait, c'est quelqu'un qui a participé en permanence à la vie de son temps et qui était passionné par des questions, alors déjà scientifiques, ce qui n'est pas une manière de s'abstraire de son époque, mais aussi des questions économiques, techniques, dont on va pouvoir parler. C'est quelqu'un, moi je voudrais mettre ça en, disons, comme centre de mon propos, c'est quelqu'un qui est fasciné par le réel, qui croit à la réalité.
Et qui va être beaucoup influencé dans cette réflexion, et notamment dans ses réflexions économiques, par Pierre Nicole. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce moraliste, Laurent Thirouin ?
Alors, Pierre Nicole est une personne importante dans notre propos. Il est de la même génération que Blaise Pascal. Je ne sais pas qui a influencé qui. En tout cas, ils ont travaillé ensemble. Pierre Nicole a été un peu un des conseillers de Pascal au moment des provinciales. Et puis, on a des textes de Pascal qui nous sont connus à travers Pierre Nicole, par exemple les trois discours sur la condition des grands. Et Pierre Nicole est particulier à Port-Royal parce qu'il a un intérêt énorme pour la sociabilité, la civilité et l'économie en tant que telle, la manière dont les hommes interagissent les uns avec les autres.
Il faut peut-être rappeler, Laurent Thirouin, que l'abbaye de Port-Royal des Champs, dans la vallée de Chevreuse, à ce moment-là, rassemble les jansénistes.
Voilà, alors ceux que leurs ennemis appelaient jansénistes, qui eux-mêmes n'acceptaient pas cette dénomination, qui ont été, pendant la meilleure période, ont été à la fois à Paris, à Port-Royal de Paris, et dans la vallée de Chevreuse, à Port-Royal des Champs, et qui, persécutés par le pouvoir à peu près en permanence, avec de rares moments de répit, ont fini par vivoter à Port-Royal des Champs, avant d'être complètement détruits par Louis XIV au début du XVIIe siècle. Mais c'est très troublant parce que les gens de Port-Royal se donnent comme des solitaires, vivant dans un désert. On a l'impression qu'ils sont hors du monde. Or, à Port-Royal, on voit que se pense un être au monde qui est tout à fait délibéré. Et des gens comme Pascal, donc comme Pierre Nicole avec ses essais de morale, qui réfléchit dans un des plus beaux essais de morale sur les rapports de la charité et de l'amour-propre, sur l'équivalence de la charité et de l'amour-propre, mais aussi donc, d'une génération un peu plus tardive, Bois-Guilbert ou d'autres personnes, sont en prise sur leur temps.
Et oui,
d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont été persécutés. S'ils avaient prié tranquillement dans leur coin, je pense qu'on leur aurait fichu la paix.
Ils ont été persécutés et puis ils ont été vus comme des précurseurs, comme des annonciateurs de la main invisible d'Adam Smith un siècle plus tard, théorie élaborée un siècle plus tard. Pour bien comprendre tout cela, il faut revenir à cette théorie de l'amour propre élaborée par Pascal. Je vous propose d'écouter un extrait d'une lettre que Pascal envoie à sa sœur Gilberte le 17 octobre 1651.
Pour dompter plus fortement cette horreur, il faut en bien comprendre l'origine. Et pour vous le toucher en peu de mots, je suis obligée de vous dire en général quelle est la source de tous les vices et de tous les péchés. La vérité qui ouvre ce mystère est que Dieu a créé l'homme avec deux amours, l'un pour Dieu, l'autre pour soi-même. L'homme en cet état non seulement s'aimait sans péché, mais ne pouvait pas ne point s'aimer sans péché. Depuis, le péché étant arrivé, l'homme a perdu le premier de ses amours. Et l'amour pour soi-même étant resté, cet amour-propre s'est étendu et débordé dans le vide que l'amour de Dieu a quitté. Voilà l'origine de l'amour-propre. Il était naturel à Adam et juste en son innocence, mais il est devenu et criminel et immodéré ensuite de son péché.
Une lecture diffusée dans l'émission estivale Un été avec Pascal sur France Inter le 10 juillet 2019. Cet amour propre que décrit Pascal, c'est ce qui permet, selon lui, une harmonie globale, alors même que le philosophe condamne cet amour propre en tant que chrétien, Laurent Thirouin.
Oui, alors ça c'est vraiment le point difficile. Tous ces gens relèvent explicitement de la pensée de Saint-Augustin. Donc celui qui a vraiment mis en place l'idée de deux amours qui ont fait deux cités, c'est saint Augustin dans la Cité de Dieu, ajoutant que ces deux amours et ces deux cités sont mêlés sur terre bien qu'elles doivent être séparées dans l'esprit. Voilà. Et donc, à Port-Royal, on suit Saint-Augustin. On se présente vraiment comme des disciples de Saint-Augustin. Donc, on condamne l'amour-propre. L'amour-propre, c'est un peu la place du péché en l'homme. C'est ce qui fait qu'il est avide de son propre bénéfice et prêt à détruire tout son environnement pour obtenir ce qu'il entend obtenir. Alors, ce qui est très étrange, c'est comment, avec une conception si négative de l'amour-propre, on arrive à penser positivement l'amour-propre et l'intérêt autour de Nicole, Pascal. Alors, Pascal qui écrit « Grandeur de l'homme d'avoir su tirer de la concupiscence un si bel ordre ». Donc, la concupiscence, c'est ça. Hein. La concupiscence, c'est le désir effréné de soi. On aurait pu dire de l'amour-propre, il n'a pas écrit ça, mais il aurait pu écrire l'amour-propre, d'avoir pu tirer un si bel ordre. Comment faire de l'ordre avec un ferment de désordre? Et alors, Pierre-Nicole, lui, va encore plus loin quand il aborde le sujet, puisqu'il compare l'amour-propre et la charité, et il dit que si les hommes gagnaient sur eux d'avoir un amour-propre intelligent, conscient de ses intérêts, véritablement conscient de ses intérêts, eh bien, il serait impossible de faire la différence entre une société païenne et une république de saints.
Donc, oui, et cela parce qu'il y a en fait déjà une forme de rationalité dans l'action humaine. C'est cela que décrivent Pascal et Nicole, Laurent Thiron. Ils ont plus intérêt à vivre dans l'harmonie que dans le chaos.
Oui, alors bien sûr, il y a ça. Il y a cette idée, alors qui elle aussi est fondamentale dans l'augustinisme, qu'il est normal de chercher son propre bonheur, qu'on ne peut rien faire d'autre que chercher son propre bonheur. Alors, pour les penseurs augustiniens, la valeur réelle d'un acte dépend de l'intention et pas de son objectivité en tant qu'acte. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des actes, donc on le voit très bien chez La Rochefoucauld, qui a vraiment utilisé cette clé morale. Donc, on peut agir très courageusement en apparence, alors qu'on est un lâche. Est-ce que je prends un exemple de La Rochefoucauld, est-ce que celui qui part à l'assaut d'une muraille parce qu'il a peur de rester tout seul dans le noir, est-il courageux ou lâche? Il est amené à accomplir un acte courageux par lâcheté. Mais comme ces gens, ces augustiniens, donc, font la distinction entre la valeur de l'acte et sa réalité apparente, ils peuvent séparer les deux. Et donc, à partir de là, il devient tout à fait pensable que des sources vicieuses produisent des actes harmonieux. Et donc, je pense que c'est de cette manière surprenante que des gens comme Pascal reconnaissent l'ordre et admirent que, en cherchant intelligemment son intérêt, on arrive à une sorte d'harmonie sociale.
Et pour Pascal, le commerce est une façon de faire société, le commerce qui, évidemment, ne désigne pas seulement l'échange de marchandises, Laurent Thiron.
Oui, voilà, le commerce est positif. Les hommes construisent véritablement une cité harmonieuse. Et Pascal est partagé entre deux sentiments. On le voit très bien dans une pensée qui est très connue, mais généralement limitée à son ouverture. C'est celle qui commence par « le moi est haïssable ». Donc tout le monde cite ça, « le moi est haïssable ».« Vous, mit-on, le couvrez », continue le texte. En fait, c'est une réflexion sur l'honnête homme et la manière qu'ont les hommes de vivre en bonne entente, quoi qu'ils soient tous à la recherche de leur propre intérêt. Alors, Damien Miton, qui est un représentant des honnêtes gens, dit à Pascal, ou dit au représentant de Pascal, « Nous avons fait en sorte que le moi cesse d'être haïssable. » Parce que quand Pascal dit « le moi est haïssable », il veut dire « le moi est haïssable par les autres moi ». Moi-même, je n'ai aucune haine pour mon propre moi, mais tout mon entourage a tendance à détester mon moi. C'est assez ennuyeux.
Parce que les mois sont en concurrence.
Tous les mois sont en concurrence, exactement. Donc, on couvre le moi. On couvre le moi, on fait en sorte que des mois intelligents soient capables de faire passer leurs intérêts essentiels avant leurs intérêts secondaires. Ça veut dire, de temps en temps, accepter de se mettre en arrière, accepter de perdre certaines choses pour en garder d'autres. Et même, si je prends la pensée des moralistes autour de Pascal, et là, Nicole a des phrases absolument magnifiques, des pages magnifiques là-dessus, le plus grand intérêt des hommes, c'est de se faire aimer. Et pour se faire aimer, c'est pas du tout parce qu'on est aimable, mais parce qu'on a beaucoup d'intérêt à être aimé. Et pour être aimé, il faut accepter un certain nombre de concessions.
C'est pour cela qu'il parle d'un commerce d'amour propre, pardon.
Voilà, un commerce d'amour propre et une société qui est à la fois en apparence une société idéale et qui est fondée sur une, ce qui est pour Pascal une injustice profonde, qui est le privilège donné par chaque mois à lui-même. Et vous voyez, la société est à la, enfin, l'amour propre est à la fois incommode et injuste, dit Pascal dans cette pensée 494. Et donc, on a réussi à bannir l'incommodité, mais on a laissé l'injustice. Donc Pascal est partagé entre les deux réactions, l'horreur devant l'injustice et l'admiration devant ce qu'il appelle dans les pensées un tableau de charité. Rien qu'avec de l'égoïsme, il vaut mieux dire égoïsme ou égocentrique, ça, égocentrisme, ça ressemble plus à notre langage à nous, rien qu'avec de l'égoïsme, on arrive à faire un tableau de charité.
Et vous parliez de la quête du bonheur chez saint Augustin, mais ce qui est peut-être nouveau avec Blaise Pascal et Pierre Nicole, c'est qu'il y a une recherche d'utilité, de bien-être, et c'est en cela qu'on peut les voir comme des précurseurs de l'utilitarisme économique,
ouais.
Laurent Thirouin.
Je crois que c'est là qu'en fait va se faire un peu le départ entre la pensée des La Rochefoucauld, Pascal, Pierre Nicole, et puis l'utilitarisme véritable, c'est que les gens du XVIIe pensent une certaine forme d'apprivoisement de l'amour propre, d'utilisation de l'égoïsme et de l'intérêt à des fins de sociabilité. Ça, ils le pensent, comme on le développera au siècle suivant. Par contre, ce qui les rend très spécifiques et à mon avis très différents de leurs héritiers du XVIIIe siècle, c'est que eux pensent l'irrationalité de l'agent, nous on dirait de l'agent économique. C'est-à-dire que tout le monde veut être heureux, mais en fait, on fait ce qu'il faut pour ne pas l'être. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de chercher notre propre bonheur. On partage les mêmes objectifs, mais on utilise les moyens exacts qui vont rendre ces objectifs inatteignables. C'est ce qui est une pensée fondamentale de saint Augustin, reprise par Pascal. Et donc, en aimant son moi, on fait son propre malheur. Alors, donc, en expliquant que l'amour du moi produit de la société, ils anticipent l'utilitarisme du siècle suivant, mais en expliquant que l'homme reste un agent, c'est pas leur langage, hein, mais je pense que je le traduis dans nos termes à nous d'une façon honnête, nous sommes tous des agents irrationnels. On passe notre temps à agir de manière à obtenir le contraire de ce qu'on veut.
Alors,
et là, pour Pascal, on est obligé de le dire en termes religieux, c'est ce qui est une structure de péché. La structure de péché, c'est faire ce qu'il faut pour ne pas avoir ce qu'on veut.
Qu'est-ce que cela vous inspire, Anne Larcellier, cette théorie de l'amour-propre qui finalement crée de l'harmonie, est à la source de l'organisation économique et d'une organisation économique efficiente, alors même que l'amour-propre peut, doit sans doute être vu comme un vice?
Alors, à l'époque, il est vu comme un vice, effectivement, parce qu'on a une vision de l'homme très classique, hein, qui se distingue notamment par son vécu et sa recherche d'une vérité essentielle, hein, qui est au-delà. Ce que je trouve particulièrement intéressant chez Pascal, c'est qu'il va justement aller se frotter à l'amour propre et à son utilité éventuelle. Et puis, une chose dont Laurent Thirouin a très bien évoqué et sur laquelle je vais insister, c'est que Pascal ne cesse de se frotter à la matière. Là où ses contemporains sont davantage dans la forme, dans la théorie, dans les idées, il est constamment animé par ce désir d'aller se frotter au monde réel, hein, donc au monde d'ici-bas, et de tester. Hein. C'est là qu'on va le retrouver en physique, qu'on va le retrouver en mathématiques, et qu'on va également, et in extremis, le retrouver dans l'entrepreneuriat. À un moment, et ça je serais curieuse d'entendre Laurent Thirouin s'exprimer là-dessus, c'est-à-dire que l'activité entrepreneuriale de Pascal va se déclencher après sa conversion, après sa fameuse nuit de feu, hein, en 1654, après quelques rappels à l'ordre, si j'ose m'exprimer ainsi, par Monsieur de Sacy, par exemple, en 1655. Enfin, on va essayer de le convaincre que la vérité essentielle domine le monde d'ici-bas. Et pourtant, Pascal, justement, termine sur presque un pied de nez, on pourrait penser, avec cet amour propre. Alors, la personne de l'entrepreneur est quand même quelqu'un qui est très centré sur lui-même. L'entrepreneur part de lui pour laisser sa marque sur le monde. Et donc, c'est très paradoxal que Pascal, au moment de disparaître, au moment de se dissoudre au monde, sa dernière action va être de le marquer précisément ici-bas.
On va bien sûr revenir sur les aventures entrepreneuriales de Blaise Pascal. Mais d'abord, si je vous ai bien compris, Laurent Thirouin, on peut dire que c'est par une forme de pragmatisme économique que Pascal estime que l'amour propre a son utilité, entraîne cette harmonie sociale, et c'est aussi par pragmatisme qu'il ne condamne pas le prêt avec usure.
Voilà. Alors, je réponds un petit peu loin à votre question. Vous dites pragmatisme, d'accord, pourquoi pas. Moi, je préférerais dire souci du réel. En permanence. C'est-à-dire qu'il y a cette idée qui fait de lui, je pense, un scientifique, c'est qu'il pense que le réel a toujours raison. C'est le contraire d'un idéologue. On connaît la formule qu'il a d'ailleurs empruntée à Montaigne, comme beaucoup d'autres choses, qui veut faire l'ange, fait la bête. Donc, faire l'ange, ça veut dire s'abstraire de toutes les conditions qui sont les conditions concrètes dans lesquelles on existe. Je peux vous en donner quelques exemples, alors qui ne sont pas directement économiques, mais qui sont quand même parlants. Des débats avec Montaigne. Alors, Montaigne se moque de l'homme en disant « Pourquoi un esprit boiteux nous irrite ?» alors qu'un boiteux ne nous irrite pas. Quand on a quelqu'un qui pense de travers, ça nous exaspère. Alors quand on voit que quelqu'un a du mal à marcher, on a plutôt de la pitié pour lui. Donc, Montaigne dit « Ça montre que l'homme est incohérent. » Pascal répond pas du tout. C'est qu'on a l'impression que les choses sont identiques, mais elles ne sont pas identiques. Il y a une raison bien précise pour laquelle un esprit boiteux nous irrite. Alors la réponse de Pascal, c'est que lui pense que c'est nous qui boitons, alors qu'un boiteux ne pense pas que c'est nous qui boitons. Voilà. Donc vous voyez, bon, c'est un petit exemple un peu psychologique, mais...
Mais justement, c'est intéressant, c'est ce souci du réel que vous évoquez, que moi j'appelais pragmatisme, l'empêche de condamner le prêt avec usure parce qu'il voit l'intérêt économique que ces prêts représentent.
Alors, bon, il n'y a pas de prise de position absolument nette sur le prêt avec usure, dont on sait par un témoignage qui est difficile à évaluer. On croit savoir que Pascal aurait écrit un traité sur l'usure qui aurait disparu. Donc il en est question dans un recueil du XVIIe siècle. Et la personne qui en parle dit que Pascal semble le permettre en de certaines rencontres. Mais Pierre Nicole, lui, a écrit un texte qui pose la question si c'est usure que de vendre à plus cher à crédit. Donc, en fait, je crois que et Pascal et Nicole ne prennent pas la défense du prêt à intérêt, qui n'est pas accepté par leur religion, mais ils prennent la défense du crédit. Donc, il y a une différence énorme entre le prêt, qui pour un chrétien au XVIIe siècle est un acte de libéralité. Donc, tirer de l'argent d'un prêt, c'est choquant. Par contre, le crédit, c'est un acte de commerce. Et le métier de marchand est un métier qui, en tant que tel, implique un enrichissement. Donc, il est normal que des règles commerciales s'appliquent quand on diffère le moment où l'on paye, quand on oblige quelqu'un à faire des investissements. Voilà.
Le génie de Pascal, en effet, qui accepte ces règles-là au nom de l'intérêt économique, peut-être d'une certaine fluidité commerciale. Allez, on va continuer dans un instant à explorer la pensée économique de Pascal, philosophe, physicien et mathématicien.
Il se murmure que les chiffres font drôle de mœurs. À notre insu, souvent, ils se rebellent. L'irrationnel mènerait serait la cadence. Il serait la cause de bien des tourments. C'est bien ma veine, c'est bien ma veine à moi. Une vraie des veines en somme. Tomber sur un bug comme ça, drôle d'accordeur, qui ne fait que minorer mes accords majeurs. En entend de suite mineur, c'est bien la preuve. La preuve qu'il existe 9 chances sur 10, une fois sur 2, de se planter. Alors plutôt 2 fois qu'une, j'ai donc refait tous mes calculs. À chaque fois je suis tombé des nues, il n'y avait que des retenues. C'est bien ma veine. C'est bien ma veine à moi, une vraie des veines en somme. Tomber sur un bug comme ça, drôle de mic-mac, qui ne fait que minorer mes accords majeurs. En entend de suite mineur, c'est bien la peine maximum. Garde tout compte fait, une fois sur 2, c'est une fois trop. Et c'est la loi de l'emmerdement.
C'est bien ma veine, Arnold Turboust, sur France Culture, d'Entendez-vous l'écho, Pascal, les pensées d'un entrepreneur, c'est notre sujet aujourd'hui. Le professeur de littérature Laurent Thirouin et la professeure de sciences comportementales Anne Lorcellier sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Françoise Lefloc et mise en ondes par Jean-Guilain Mèche.
Une équation sexuée à l'évidence, aussi logique que E égale MC2. Mise en scène par un gars prénommé Murphy serait la cause de tous mes tourments. C'est bien ma veine, c'est bien ma veine à moi.
Ce qui permet de parler d'un Blaise Pascal économiste, comme on le fait avec vous, Anne Lorcellier, et vous, Laurent Thirouin, depuis le début de cette émission. C'est aussi la place qu'il accorde au hasard et à l'incertain. Écoutez ce qu'il écrit dans ses pensées qui ont été publiées après sa mort. S'il ne fallait rien faire que pour le certain, on ne devrait rien faire pour la religion, car elle n'est pas certaine. Mais combien de choses fait-on pour l'incertain? Les voyages sur mer, les batailles. Je dis donc qu'il ne faudrait rien faire du tout, car rien n'est certain, et qu'il y a plus de certitude à la religion que non pas que nous voyons le jour de demain. Or, quand on travaille pour demain et pour l'incertain, on agit avec raison, car on doit travailler pour l'incertain, par la règle des parties qui est démontrée. Saint Augustin a vu qu'on travaille pour l'incertain sur mer, en bataille, etc. Mais il n'a pas vu la règle des parties qui démontre qu'on le doit. Montaigne a vu qu'on s'offense d'un esprit boiteux et que la coutume peut tout, mais il n'a pas vu la raison de cet effet. Toutes ces personnes ont vu les effets, mais ils n'ont pas vu les causes. Laurent Thirouin, quelle est cette règle des parties qui, selon Pascal, pousse à l'action?
Alors, cette règle des parties, c'est le résultat d'un défi mathématique qui avait été posé à Pascal par un de ses amis joueurs, le chevalier de Méret, qui se demandait comment l'on pouvait répartir les mises d'un jeu de hasard si le jeu de hasard n'était pas arrivé à son terme. Donc, un jeu en plusieurs manches, qui pour une raison quelconque n'est pas terminé. Et donc un des deux joueurs est plus proche de la victoire. C'est un jeu purement aléatoire, un jeu équilibré, une chance sur deux de gagner au départ. Un des joueurs est arrivé plus proche de la victoire, mais le jeu s'arrête. Que doit-on faire des mises? Il faut les partager, en faire une répartition, ce qu'on appelle au XVIIe siècle un parti, P-A-R-T-I. Donc, la règle des parties, c'est la règle des répartitions qui cherche à calculer, en fait, ce que nous on appellerait la probabilité de victoire de chacun des deux joueurs, mais qui se traduit très précisément dans les travaux de Pascal, mené avec son ami mathématicien Fermat à Toulouse, qui se traduit par une clé de répartition. Dès que le hasard est arrêté, eh bien, il y a une sorte de moment, enfin, tout est figé et on doit prendre en considération l'avantage relatif qu'avait un joueur par rapport à l'autre.
Ce qu'on appellera plus tard l'utilité espérée. C'est pour ça qu'on fait de Pascal le fondateur de la théorie de l'utilité espérée.
Voilà. Donc lui-même a dit qu'il avait fondé une science qu'il trouve ahurissante et qu'il intitule, alors non pas probabilité, puisque probabilité renvoyait pour lui à d'autres réalités qui lui déplaisaient, mais qu'il appelle la géométrie du hasard. Geometria aleae, c'est un texte en latin. Donc la géométrie du hasard, qu'on puisse suivre mathématiquement des enchaînements rebelles à tout déterminisme et rebelles à toute expérience. Ça n'est pas parce que quelque chose se produit de façon aléatoire que cela se développe sans aucune rationalité géométrique. Mmh. Mettre une rationalité géométrique sur de l'absolument indéterminé.
Et ça, c'est une révolution pour l'époque, c'est un bouleversement absolu.
C'est un bouleversement complet. C'est pour cela qu'on exagère un peu en disant que Pascal est le fondateur des probabilités, parce qu'il n'a pas trouvé grand-chose et qu'il a laissé la science vraiment à ses balbutiements.
Et qu'il n'a pas appliqué cette théorie au marché économique.
Voilà. Mais il est le premier à avoir énoncé aussi fermement qu'il y avait la possibilité pour le mathématicien de régir le hasard, en tout cas de suivre le hasard, de considérer quels sont ses mouvements. Et il en est lui-même ahuri. Hein. Il parle en latin d'un titre stupendum, stupéfiant. Ça fait vraiment partie de ses découvertes qui l'ont le plus troublé.
À Norcellier ?
Oui, on serait tenté de dire qu'il y a un biais rétrospectif sur Pascal et les probabilités, mais en même temps, tout le calcul bayésien dont raffolent toutes les sciences actuelles de prédiction en économie viennent directement de cette pensée-là. Donc effectivement, il ne l'avait pas prévu, mais les travaux notamment de Simon Laplace, qui vont être bien plus tardifs, n'auraient pas pu avoir lieu sans la pensée pascalienne au départ.
Et les travaux de Pascal sur le problème des parties montrent que les jeux de hasard commencent à être acceptés au XVIIe siècle, dans les échanges financiers et dans le commerce, Anne Lorcellier ?
Alors ça, je sèche là-dessus, je laisserai davantage Laurent Thirouin répondre à cette question.
Laurent Thirouin ?
Oui, c'est très étrange, hein, parce que non, moralement, les jeux de hasard sont assez mal perçus au XVIIe siècle, et objectivement, c'est un fléau, hein, les jeux de hasard à l'époque de Pascal. Donc il y a toutes les raisons du monde de mettre en garde les gens. On joue n'importe quoi, des sommes faramineuses, avec une espèce d'absence de compréhension des mécanismes qui nous laisse pantois. Mais Pascal écrit pourtant dans ses réflexions sur les parties, il considère la mise comme un contrat. Comme un contrat, j'ai sous les yeux là le début d'un texte de Pascal. Pour entendre les règles des parties, la première chose qu'il faut considérer est que l'argent que les joueurs ont mis au jeu ne leur appartient plus, car ils en ont quitté la propriété, mais ils ont reçu en revanche le droit d'attendre ce que le hasard leur en peut donner. Donc, on a échangé une propriété contre un droit d'espérance. Et ça a un coût. Une propriété, on sait ce que c'est, mais la possibilité d'espérer un gain supérieur, ça doit s'évaluer aussi. Et Pascal est tout à fait prêt à cette évaluation, et il considère qu'il n'y a rien de choquant moralement, car l'espérance d'un grand bien peut être transformée, c'est ce que fait la règle des parties, en la possession d'un bien moindre.
Il doit bien y avoir un Pascal ici. Est-ce qu'il y a une référence précise aux mathématiques dans le texte sur de Paris ?
France Culture.
Partout où est l'infini et où il n'y a pas infinité de hasard de perte contre celui de gain, il n'y a point à balancer, il faut tout donner. Et ainsi, quand on est forcé à jouer, il faut renoncer à la raison pour garder les vies, etc.
Entendez-vous l'écho ?
Le triangle arithmétique de Pascal est lié à toute l'histoire du Paris. Et c'est même par là
que Pascal est prodigieusement moderne. Le mathématicien et le métaphysicien ne font qu'un.
Tiphaine de Roquigny.
Le mathématicien et le métaphysicien ne font qu'un, nous dit Antoine Vitesse, alias Vidal, dans Ma nuit chez Maud. Le pari de Pascal encourage le sceptique à croire en Dieu avec cet argument, puisqu'il n'y a de preuve ni de l'existence ni de l'inexistence de Dieu, autant y croire, car ainsi on donne du sens à sa vie. Est-ce qu'il s'agit là, Laurent Thirouin, d'un simple calcul économique prenant en compte les avantages et les risques de croire ou de ne pas croire en Dieu ?
C'est en tout cas tout à fait l'apparence que ça présente. Hein. Et ça explique pourquoi cet argument, qui paraît somme toute assez sommaire, hein, quand on le résume comme dans le film de Romère ou comme on vient de le faire maintenant tous les deux, il semble que cet argument ne va pas chercher très loin. Alors pourquoi a-t-il à ce point fasciné la postérité ? C'est-à-dire que c'est un des premiers textes, après l'apparition des pensées de Pascal, après la mort de Pascal, c'est un premier texte sur lesquels on est réagi. Et la première réfutation des pensées de Pascal porte précisément sur ce discours. On a l'impression d'une sorte de traitement mercantiliste de la question de Dieu. Qu'est-ce que je mise ? Qu'est-ce que je vais gagner ? Qu'est-ce que j'ai intérêt à miser ? Donc on est bien d'accord, bien sûr, vous l'avez dit très justement, ça n'a absolument aucun rapport avec une preuve de l'existence de Dieu. C'est bien parce qu'on n'a aucune preuve possible de l'existence de Dieu qu'on doit agir dans un simple calcul de rentabilité.
Voilà. Et c'est un calcul qui est central dans la pensée de Pascal. C'est intéressant puisqu'on voit que Pascal part dans des directions très différentes. Hein. On a parlé, commencé à évoquer le Pascal entrepreneur avec vous, Anne-Laure Cellier. Il y a le fait qu'il invente à 19 ans la machine arithmétique. On peut dire que c'est sa première invention significative et en même temps que c'est un échec entrepreneurial, Anne-Laure Cellier.
Mais c'est sa première aventure entrepreneuriale qui, comme très souvent dans l'entrepreneuriat, est un échec absolu. Et donc, il me semble que Pascal a laissé des traces de cette blessure, hein, dont on dirait qu'elle est narcissique. Alors, en parlant de quelqu'un qui n'aime pas l'amour propre, ça fait mal. Mais il me semble que Pascal est peut-être passé par ces eaux troubles, justement, de la blessure narcissique pour s'en extirper, tout en restant dans le traitement de la matière. Donc, à mon sens, son aventure entrepreneuriale a commencé effectivement avec cette machine arithmétique, s'est soldé par un premier échec.
Il faut peut-être expliquer que c'était une machine qui visait à aider son père, c'est ça ? Une machine qui aidait à calculer, mais qui était beaucoup trop chère. C'est ça.
C'était une œuvre géniale, et reconnue comme telle, hein, une œuvre de l'esprit de géométrie dans toute sa splendeur. Il a fait 50 prototypes, il a travaillé dur, Pascal. Il s'est moqué un petit peu de savants imparfaits qui avaient dit qu'une telle machine était possible, mais qui ne s'était pas frotté au réel, justement. Donc, on voit que lui ne se contente pas de théorie, il a besoin de voir en pratique si ça marche et de prouver que ça marche. Donc, avec la machine arithmétique, il prouve que ça marche, donc il invente la première machine à calculer. Mais effectivement, c'est un échec commercial parce qu'elle n'est pas à la hauteur du marché. Elle est bien trop chère. Elle coûte à l'époque, enfin, l'équivalent de 16 000 euros, qui à l'époque est complètement hors budget pour une famille moyenne en France.
C'est ça, c'est le budget annuel d'une famille de l'époque. Et donc, je crois que Pascal ne va pas en vendre une seule. Il va en donner certaines, mais ne jamais en vendre.
Alors, très intelligemment déjà, il va les placer quand même, ces petites machines arithmétiques, auprès du chancelier Séguier, qui est l'équivalent du ministre de la Justice à l'époque, qui a beaucoup d'influence. Donc, il est intelligent parce qu'il repère déjà ce qu'on appelle des leaders d'opinion. Il va en offrir une aussi à Christine de Suède. Et il va espérer être influent par ce biais-là.
Mais la réalité... Ça va marcher d'ailleurs, ça va le rendre célèbre.
Alors, ça va le rendre célèbre, il y aura un succès d'estime qui existe encore aujourd'hui, mais il n'y aura pas de succès de marché. Ça ne va pas prendre parce que c'est un gadget, hein, on appellerait ça un gadget. Voilà. On voit que c'est faisable, mais personne n'en a réellement besoin à ce point-là, pas à ce prix-là en tous les cas.
Laurent Thirouin, peut-être sur cette première aventure entrepreneuriale ?
Oui. Moi, je serais moins cruel que Anne-Laure Cellier. J'ai relu juste avant l'émission, pour me le remettre en tête, l'avis que Pascal a écrit pour prôner la machine arithmétique, l'avis nécessaire à ceux qui auront curiosité de voir la machine arithmétique. Et il y a dans ce texte une jubilation, un plaisir d'entreprendre qui, à mon avis... surnage malgré l'échec de l'entreprise. Alors oui, ça c'est incontestable, je ne vais pas contredire Anne Lorcellier sur ce plan, commercialement, la machine a raté. Mais quand Pascal nous explique tout le travail qu'il s'est donné pour en faire, pour passer du prototype à l'objet définitif, les manières dont il a jugé nécessaire de travailler avec des artisans, le mal qu'il s'est donné pour l'ergonomie de l'objet. C'est-à-dire qu'il explique que, il explique dans son texte aussi que il a été obligé de faire une machine très complexe intérieurement pour la rendre très simple de fonctionnement. Donc lui a échoué d'un point de vue commercial, mais a tout fait pour que la machine arithmétique ne soit pas un gadget, soit un objet utilisable. Il l'a fait voyager pour garantir sa solidité. Il a réfléchi à la matière qu'il allait utiliser. Il a réfléchi, chose très très importante, à la façon d'inscrire les chiffres, pour qu'on les inscrive de gauche à droite, comme on écrit, et non pas de droite à gauche, comme d'autres tentatives l'avaient fait, pour qu'on puisse les écrire horizontalement et non pas verticalement, comme une entreprise, comme une invention préalable l'avait fait.
Mais donc c'est vraiment une figure d'entrepreneur, une figure d'inventeur, et ça c'est totalement nouveau, Anne Lorcellier.
Alors, il est plus inventeur qu'entrepreneur. Donc oui, je vais être cruelle et je vais assumer. Donc oui, il va tenter de peaufiner, il va peaufiner sa machine, mais ce qu'il sous-estime, c'est à quel point son point de départ était erroné. C'est-à-dire, c'est, encore une fois, il n'y a pas de douleur de marché. Donc, il se lance, si vous voulez, dans le vide d'un challenge mathématique et d'inventivité formidable, et il sait qu'il peut le faire. Il se félicite, d'ailleurs, aussi, là où je rejoins Laurent Thirouin. Effectivement, il y a une jouissance de la création, et il pense avoir fait quelque chose d'assez extraordinaire. Il dit, à un moment donné, « En la jeunesse où je suis, et avec si peu de force, puisqu'il est déjà malade, j'ai osé tenter une route nouvelle dans un champ tout hérissé d'épines, et sans avoir de guide pour m'y frayer le chemin. » Donc on voit vraiment l'inventeur qui se jette dans le vide, qui se lance, et qui effectivement va essayer de se rapprocher du marché, en rendant la machine de plus en plus facile à utiliser. Mais le point de départ est tellement haut, tellement hors marché, qu'il ne va pas réussir à descendre suffisamment. Et donc, pour moi, ça reste relativement, surtout au regard des carrosses à cinq sols qu'il va créer plus tard, un échec relatif.
Vous avez évoqué un peu plus tôt dans cette émission sa conversion, sa révélation. Et j'aimerais savoir ce que ça a changé dans son rapport, justement, aux inventions, à l'entrepreneuriat, même si, encore une fois, ce terme est complètement anachronique pour le XVIIe siècle, Anne Lorcellier.
Alors là, on parle d'un homme qui est décédé il y a 400 ans. Donc, nous, en termes simples, nous fumons la moquette. Je pense qu'il ne faut pas oublier que Pascal, nous ne pouvons qu'avoir une opinion. Mais effectivement, je trouve que le moment auquel il se lance dans les carrosses à cinq sols interroge, puisqu'il va le faire après sa conversion, après l'entretien avec M. de Sacy, après toute une série d'événements qui auraient naturellement conduit à des lectures totalement pieuses, à un retrait de la vie mondaine complet. Et contre toute attente, il va donner l'essentiel de son temps à cette activité entrepreneuriale. Donc c'est ça, in extremis, il va se lancer dans cette activité entrepreneuriale comme si, et bon, l'interrogation que j'ai, c'est comme s'il avait encore quelque chose à démontrer dans ce domaine-là.
Une aventure qui apparaît dans le téléfilm de Roberto Rossellini de 1971, Blaise Pascal.
Il y a quelques jours, m'est venue une idée que j'aimerais vous soumettre. Elle vous semblera peut-être étrange, mais elle rendra de grands services à tous les Parisiens et me permettra de gagner un peu d'argent pour mes pauvres. Il s'agit d'un projet de service à paiement que j'ai conçu en regardant passer les carrosses dans la rue. J'ai établi un trajet à partir du plan de Paris et j'ai fait tous mes calculs. Regardez, voici un des carrosses qui doit servir au public. Vous le savez, le roi nous a accordé le privilège de les établir moyennant le prix de 5 sous par personne. Et ceci pour un parcours qui va de Vincennes au Louvre en passant par la cité. Et le Châtelet. Je pense que ce service de carrosse publique sera très utile, particulièrement sur ce parcours, où il se fait un grand trafic de gens de robe. Et vous le voyez également, nous pourrons utiliser les couleurs et les armes de la ville de Paris.
Laurent Thirouin, qu'est-ce que vous pensez de cette aventure entrepreneuriale de Pascal en 1661, un an avant sa mort, donc cette aventure autour du carrosse à 5 sols qu'on va expliquer dans un instant? Est-ce que, selon vous, comme disait Anne Lorcellier, il a encore quelque chose à prouver? Est-ce que ce n'est pas aussi le signe de la volonté de se lancer dans l'entrepreneuriat social?
Alors, bon, il n'y a pas de doute que c'est étonnant. Hein. C'est en effet pas ce qu'on attend de Pascal à quelques mois de sa mort. Après, chaque fois qu'on parle de la conversion de Pascal, il faut bien faire attention au sens des termes à son époque. Hein. Pascal a toujours été chrétien. Alors, quand il parle de conversion, on est allé, les historiens de Pascal sont allés jusqu'à parler de 3 conversions. Une conversion en Normandie, pendant que son père était à Rouen, la nuit de feu, et une ultime conversion à quelques années de sa mort, quelques mois de sa mort. Donc chaque fois, c'est un approfondissement. Ça n'est pas la découverte d'une nouvelle foi, mais c'est un désir d'être davantage chrétien. Alors, ce qu'il faut en conclure, c'est que pour Pascal, il n'y avait visiblement pas de contradiction entre cette ultime conversion, cet ultime approfondissement de sa foi, et une activité aussi mondaine, aussi concrète, aussi technique, aussi de gestion que les carrosses à 5 sols.
Alors il faut entrer un petit peu dans le détail peut-être de cette idée de transport en commun parisien. Comment lui vient cette idée, Anne Lorcellier?
Alors on sait assez peu de choses. On sait qu'il a eu l'idée 2-3 ans avant de vraiment la formaliser. Et on sait qu'il a cette idée, qu'il va discuter de cette idée avec son ami de longue date, le duc de Rouennais. Donc c'est une aventure entrepreneuriale en équipe. Première leçon de Pascal, quand on entre à plusieurs, on est plus fort. Alors, on ne sait pas qui a fait quoi exactement. On sait que la main de Pascal est vraiment sur l'entreprise, parce que lorsqu'il va disparaître, l'entreprise va moins bien se porter de façon nette. Donc, on sait qu'il y passe encore une fois l'essentiel de son temps. Mais c'est entre le duc de Rouennais et Pascal qu'est née cette idée. Ensuite, il va y avoir une opportunité, le décès de Mazarin, qui va laisser, et ça je trouve ça très intéressant comme idée avec le prisme de l'actualité, il va faire de la récup quand même. Mmh. On aurait pu se dire, bon allez, je fais les transports en commun, je vais faire fabriquer des carrosses. Non.
Il recycle les carrosses de Mazarin.
Il fait de l'économie circulaire avant l'heure. D'ailleurs, l'économie circulaire, quand on n'est pas passé par la révolution industrielle, c'est peut-être plus facile d'y penser. Je dis ça au passage. Donc, il pense déjà à cette récupération. Et avec ses 7 carrosses, il va le lancer. Donc, il va à nouveau prototyper. Hein. Il n'attend pas d'avoir une masse critique. Il ne va pas faire une étude de marché pour voir, dans un Paris de 500 000 habitants à l'époque, de combien de carrosses ai-je besoin. Et donc, il va lancer. Et ça va être un succès immédiat. Donc, avec tout un ensemble de processus qu'il va formaliser, et c'est là, le diable est dans les détails, hein, et il va s'approcher, il va comprendre la douleur de marché. Et ça, c'est vraiment un pivot par rapport à la machine arithmétique. Il va partir du marché pour construire son affaire plutôt que de créer une invention et de la proposer au marché dans un deuxième temps.
Et oui, ça marche extrêmement bien. Voilà ce que Gilberte Perrier, la sœur de Blaise Pascal, écrit en 1662 dans une lettre à son ami Arnaud de Pomponne. La chose a réussi si heureusement que dès la première matinée, il y eut quantité de carrosses pleins et il y a là même plusieurs femmes. Mais l'après-dîner, ce fut une si grande foule qu'on ne pouvait en approcher. Et les autres jours ont été pareils, de sorte qu'on voit, par expérience, que le plus grand inconvénient qui s'y trouve, c'est celui que vous aviez appréhendé. Car on voit le monde dans les rues qui attend un carrosse pour se mettre dedans, mais quand il arrive, il se trouve plein, cela est fâcheux. Mais on se console, car on sait qu'il en viendra un autre dans un demi-quart d'heure. Cependant, quand cet autre arrive, il se trouve qu'il est encore plein, et quand cela est arrivé ainsi plusieurs fois, on est contraint de s'en aller à pied. Ce qui n'est pas sans rappeler quelques souvenirs de Parisiens dans le métro. C'est ce qui est intéressant intéressant, Anne-Laure Cellier, c'est que on voit qu'il y a plusieurs innovations dans cette invention du carrosse à cinq sols. La correspondance, la cadence, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Mais c'est une innovation radicale qu'on a complètement oubliée aujourd'hui. Enfin, je m'étonne qu'il n'y ait pas une ligne de métro Pascal. On a des arrêts Charlotte-Perriand, maintenant de bus. On vient de fêter les 400 ans de Pascal. Il est partout, Pascal. Donc, c'est une première mondiale. Hein. Il fonde ce qu'aujourd'hui on appelle la RATP. Et d'ailleurs, les lignes pascaliennes restent vivantes aujourd'hui. Donc, il va créer effectivement des lignes. Donc, déjà, faut les tracer, ces lignes, dans un Paris à l'époque qui est, faut imaginer, c'est boueux, il y a des rues étroites, il y a du bruit, il y a des artisans qui travaillent, donc, faut faire de la place. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir des gardes et des archers qui vont accompagner les premiers carrosses, hein, parce qu'il faut que le carrosse se fraye un chemin. Il va falloir créer donc ces routes. Après, il va créer des correspondances. Donc, c'est incroyable. Cette idée nous paraît complètement banale aujourd'hui, mais voilà, je peux descendre de mon carrosse et prendre une autre route avec le même billet. Il va créer des zones. C'est-à-dire qu'au-delà de certains arrêts, dès qu'on passe un bureau des carrosses, on va prendre un deuxième ticket. Il va créer le prix, donc le prix psychologique, hein, ce qu'on appelle le prix psychologique. C'est-à-dire 5 sols à l'époque, c'est l'équivalent d'une course en taxi aujourd'hui, ou à l'époque de ce qu'on donne à la messe. Donc il va raisonner par exemple que le transport spirituel, hein, ce qu'on est prêt à donner à la messe pour un transport spirituel, un transport physique, ça devrait être à peu près la même chose. Nous, ça nous paraît évident aujourd'hui, les entrepreneurs se prêtent à cet exercice-là avec grande facilité. À l'époque, c'est radicalement nouveau.
Radical. Il prévoit même un moyen d'empêcher que le cocher s'enfuit avec la caisse, en prévoyant qu'il y ait un cocher et un laquais par carrosse, mais que ce duo change tous les jours. Alors, la demande est énorme, on l'a compris, et cette entreprise va se révéler très rentable, mais ce n'est pas l'objectif de Pascal. C'est pour ça que je parlais d'entrepreneuriat social, Anne-Laure Cellier, c'est vraiment un projet visant à servir l'intérêt commun.
Mais en fait, l'entrepreneuriat est social par nature. En fait, ça a été une dénaturation de l'entrepreneuriat. Alors, c'est drôle parce que le mot entrepreneuriat n'existe pas encore à l'époque. Mais l'entrepreneuriat, fondamentalement, c'est résoudre une douleur de marché. Donc, oui, il est social. Parce que là, il va inventer ce qu'on va appeler les communs, beaucoup plus tard. C'est-à-dire le fait qu'on va mélanger toute la population à l'intérieur d'un carrosse. C'est incroyable. Dès le premier jour, des femmes montent dans le carrosse. C'est vous dire la révolution, parce que vous avez absolument toutes les classes sociales qui se mélangent à l'intérieur. Donc, et pourquoi est-ce qu'elles se sentent en droit et en sécurité de le faire? Parce que, encore une fois, c'est accompagné par les gardes et les archers. Donc, il y a tout un ensemble de détails qui fait que ça marche. Ça aurait pu parfaitement ne pas marcher, très facilement en réalité.
Et ça marche pendant près de 30 ans, malgré la mort de Pascal. Pourquoi ces carrosses finissent-ils par s'arrêter avant de voir le jour à nouveau, en tout cas le modèle de ces carrosses au 19e siècle?
Alors, je crois qu'ils vont s'arrêter plus tôt que ça. C'est au milieu des années 1670, si je ne m'abuse. Laurent sera plus à même d'être précis à ce sujet-là. Mais surtout, ça va péricliter parce que l'offre pascalienne initiale va être contournée par le Parlement, qui va en fait empêcher que le bas-peuple monte dans les carrosses. Pour quelles raisons? Non pas parce que ça ne dérange ni le roi, qui aime beaucoup l'idée des carrosses, ni les aristocrates de l'époque, ni les nobles, mais c'est les bourgeois qui trouvent ça insupportable de se mélanger. Et donc, il va y avoir décision du Parlement d'interdire l'accès aux carrosses à une partie du bas-peuple. Et ça veut dire que le prix va monter. Et il va monter tellement que on va retomber dans le problème de la machine arithmétique, ça devient un gadget. Parce qu'il faut bien se dire qu'il n'y a pas une demande pour les carrosses à 5 sols au départ. Il n'y a pas un besoin criant de
transport
en commun. C'est
l'offre qui va créer la demande.
Il y a un besoin latent. C'est-à-dire qu'une fois que l'innovation est lancée, effectivement, les Parisiens trouvent ça génial. Mais c'est pas qu'il n'y a pas eu d'études de marché montrant qu'il y avait besoin de ça auparavant.
Merci beaucoup, Anne-Laure Cellier et Laurent Thirouin, de nous avoir plongé comme ça dans l'œuvre de Pascal et dans ses réflexions économiques, ses aventure entrepreneuriale. J'annonce un article scientifique à paraître sur Blaise Pascal, entrepreneur de votre côté, Anne-Laure Cellier et Laurent Thirouin. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage Pascal ou le défaut de la méthode, lecture des pensées selon leur ordre, paru aux éditions Champion l'an dernier. Un grand merci encore à tous les deux.
Merci à vous.
C'est
C'est la fin d'Entendez-vous l'écho. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. Demain, La Bruyère, une affaire de morale. Pour ce troisième épisode de notre série sur les penseurs de l'économie au XVIIe siècle, nous recevrons Béatrice Guillon et Laurence Croc. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur X, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.